don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Sophia Anastasio, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontani. On poursuit notre série consacrée au monde paysan après la crise agricole en Europe hier. L'émission d'aujourd'hui va viser à comprendre l'insertion du paysan dans son tissu local à travers la problématique des circuits courts. Le paysan est mon voisin, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Lorsqu'on a semé ces poireaux en mars, on savait déjà qu'on les avait vendus à 150 familles qui sont autour de nous.
Notre activité repose quand même sur plus de 30% de ces circuits courts. Ça ne peut être que bénéfique et puis bon, la relation est totalement différente par rapport aux industriels.
Apporter les produits en ville, aux citadins, cela leur donne l'occasion de connaître l'agriculture, l'agriculture qu'ils ne connaissent plus. Ces marchés agricoles ont des pour et des contre. Ce qui est bien, c'est que l'on rencontre plus de monde qu'à la ferme, donc on peut vendre plus. Ce qui est moins bien, c'est que ce travail se rajoute à l'autre travail, ce qui fait que je ne peux même pas vous dire quand est-ce que j'ai pris mon dernier jour de congé.
In the US, where now a lot of farmers have picked up that model.
Ici, aux États-Unis, beaucoup d'agriculteurs ont choisi ce modèle et il fonctionne vraiment bien pour nous. Étant donné que nos clients payent en avance, nous pouvons mieux faire face à de grosses dépenses comme les graines ou la main-d'œuvre. Et avec cet argent, on peut également investir dans de la publicité pendant l'hiver, quand nous avons moins de travail à la ferme.
AMAP en France, Teikei au Japon, Reciproco au Portugal, ASC au Canada. Les circuits courts dans l'agriculture continuent de se développer un peu partout dans le monde et connaissent un dynamisme croissant. Ils sont d'abord apparus au Japon dans les années 60 et puis aux États-Unis dans les années 80. Les community supporters d'agriculture se développent à plus grande échelle et inspirent l'Europe et notamment la France qui voit émerger au début des années 2000 les fameuses AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. 10 ans après leur apparition, elles recensent 270 000 consommateurs et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. La vente directe entre agriculteurs et consommateurs représente désormais 2% de la distribution alimentaire en France. Un chiffre dérisoire par rapport aux grandes surfaces, mais la vitalité et la créativité du secteur a déjà commencé à bouleverser le paysage du marché de masse et des filières longues. D'abord lié à des crises sanitaires, le retour à une alimentation locale semble aujourd'hui participer d'un même rejet de la mondialisation et de la standardisation de l'agriculture qui a coupé le producteur du consommateur. Alors, comment mesurer le poids économique de ces circuits courts? Sont-ils un phénomène marginal ou une réalité économique avec laquelle la grande distribution doit composer? En quoi contribuent-ils au développement durable? Peuvent-ils ouvrir la voie à une relocalisation de l'agriculture? Quelle ressemblance, quelle différence entre les AMAP en France et puis le Teikei Nippon ou bien les CSA américains? Comment ces modèles de circuits courts se sont diffusés dans le monde? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Et pour ce faire, nous avons invité un ingénieur économiste, Gilles Maréchal, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs consultant en agriculture et puis vous avez coordonné cet ouvrage, Les circuits courts alimentaires, paru en 2008 aux éditions Éduc Agri. Vous êtes beaucoup intéressé à la France, bien sûr, mais aussi au Brésil, aux États-Unis, au Japon, dont on va s'intéresser en particulier nous ce matin. Faut d'abord rappeler que les circuits courts, en fait, ils représentent la majorité des dispositifs par lesquels les gens se nourrissent. En réalité, ils sont bien moins marginaux qu'on pourrait le soupçonner. Et en plus, la tendance est en train de s'accentuer, Gilles Maréchal.
Oui, oui, si on observe l'humanité dans son ensemble, la plupart de nos coplanétariens mangent grâce à des circuits de proximité, hein, spécialement dans les pays dits du Sud, en Afrique, dans ces pays très peuplés que sont l'Inde, la Chine, le circuit court règne en maître. Dans nos pays de l'OCDE, pour faire bref, ils ont été un petit peu oubliés, considérés comme un reliquat par certains, ou bien comme quelque chose qu'il fallait dépasser, et ils sont en train simplement de renaître sous de nouvelles formes.
Alors, de quoi est-ce qu'on parle justement quand on parle de circuits courts alimentaires? On va s'intéresser tout à l'heure au Japon, mais regardons peut-être d'abord du côté de la France. On a ce qu'on appelle ces AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui est donc une forme de partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et puis une exploitation locale. Peut-être Est-ce qu'on pourrait rappeler le contexte dans lequel émergent ces associations? Et puis, comment est-ce qu'on les définit? En gros, qu'est-ce qu'il faut en termes de niveau de proximité entre producteurs et consommateurs pour parler justement d'AMAP, de circuit court alimentaire?
Bon, il serait vain de vouloir définir une distance optimale ou maximale qu'il faut faire, parce que chaque région se caractérise par un certain nombre de produits qui sont accessibles et d'autres pas. Le chiffre de 80 km est souvent avancé parce que ça correspond à une mesure dérogatoire en matière sanitaire sur le plan européen. Mais il est évident que dans une région comme la Bretagne, d'où je viens, où la production est très concentrée sur des productions animales, où nous avons peu de fruits, hormis pommes et poires, sinon vernante de production viticole, bah, il faut aller chercher plus loin les différents produits qui peuvent composer le panier d'une famille pour la semaine. Donc ce n'est pas simplement une distance, c'est une distance, je dirais, la plus courte possible, hein, sans mettre un chiffre particulier, mais c'est aussi une proximité avec le producteur, entre le producteur et le consommateur, entre la ville et la campagne, et puis surtout une simplification du réseau de distribution pour qu'il soit le plus direct possible.
Alors, quand on parle de ces AMAP en France, il faut, pour comprendre justement les racines de tout ça, aller du côté du Japon. Vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les Teikei, qu'on pourrait traduire en japonais par coopération, collaboration, qui sont apparus au Japon dans les années 60-70 surtout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte justement ces Teikei émergent et puis comment ils fonctionnent exactement, quelle ressemblance, quelle différence est-ce qu'on peut voir avec les AMAP? Parce que je crois que la philosophie finalement qu'il y a derrière est un petit peu différente. Gilles Maréchal.
La langue japonaise est très polysémique, hein, donc teikei c'est coopération, mais ça évoque aussi le fait de mettre le visage du producteur sur le produit. Et ça, c'est quelque chose de fondamental par le teikei qui a été inventé dans les années 70 au Japon, s'est développé par la suite par l'association japonaise d'agriculture biologique, mais qui regroupait des producteurs et des consommateurs. Dans leur définition, un produit ne pouvait être appelé bio que s'il répondait à un certain nombre de caractéristiques dans sa production, notamment l'absence de pesticides et d'engrais de synthèse, mais aussi une commercialisation au plus proche, le plus près possible. Formellement, si on s'intéresse simplement aux formes, la façon dont une caméra pourrait enregistrer la transaction, Teikei et AMAP, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'un consommateur commande à l'avance, pour une période souvent de 6 mois, un panier qui lui arrivera toutes les semaines, qu'il paye en avance, de façon à franchir le producteur des emprunts bancaires qu'il devrait faire pour lancer la production. Malgré tout, ça s'ancre dans deux contextes culturels radicalement différents. Et au Japon, c'est plutôt une recherche de cohésion sociale, d'épanouissement, de liaison entre producteurs et consommateurs, mais sur un plan presque philosophique. Alors qu'en France, le mouvement repose plus sur un engagement de citoyens qui veulent soutenir une agriculture locale. Donc dans un cas, c'est plus une recherche d'harmonie. Dans l'autre cas, plutôt une exigence de justice et une recherche d'engagement citoyen.
L'esprit du teikei, c'est l'autonomie, c'est l'entraide. D'abord, il n'y a pas du tout d'intermédiaire. Le consommateur est directement en lien avec le producteur. On est moins finalement dans un échange commercial que dans le cas des AMAP.
Je ne vois pas de différence fondamentale, hein, puisque les citoyens japonais qui participent à un teikei payent aussi leur panier. Simplement, la symbolique qui se trouve derrière les billets de banque qui sont échangés est différente au Japon. Hein. Au Japon, c'est plus, disons, un citoyen qui n'a comme contre-don à faire au producteur qui accepte de lui donner de bons produits, il n'a que l'argent à sa disposition. En France, l'aspect commercial ou l'aspect monétaire est plus directement assumé parce que les AMAP ne sont pas sous-tendus par cette même philosophie holiste que celle qui existe au Japon.
Et si j'ai bien compris, pour aller encore en avant dans cette idée, Gilles Maréchal, du côté des teikei, c'est en tout cas pas seulement un échange commercial. Novembre 78, Teruo Ishiraki, Ishiraku, qui est un philosophe, dirigeant de coopérative agricole à l'époque, qui avait alerté les consommateurs des dangers des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et qui avait lancé le mouvement de l'agriculture biologique, il avait établi les 10 principes définissant le Teikei. 8e principe, je le cite. Les groupes de producteurs et de consommateurs doivent donner de l'importance aux activités d'études au sein de chaque groupe. Cela ne doit pas s'arrêter à la recherche de l'offre et de l'obtention d'aliments sains. Il est nécessaire d'inciter au sein de chaque groupe une réflexion personnelle et il est souhaitable d'organiser une réunion périodique d'études qui réunira tous les participants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi justement consistent ces réunions d'études? Et on a le sentiment là qu'il s'agit du coup pas seulement effectivement de se procurer des aliments, mais qu'il est aussi question de penser la vie de la communauté, de penser la vie du groupe. Il y a quasiment un projet de politique derrière ça, non?
Oui, tout à fait. Ces réunions d'études alors portent sur des sujets qui ont à voir avec l'alimentation, bien entendu, mais l'alimentation en tant que lien qui peut faire le ciment d'une société. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'étudier ce qui est permis ou ce qui est prohibé dans une culture biologique, mais aussi ce que représente l'alimentation dans une famille, quel peut être son poids dans la préservation de l'environnement, la préservation de certaines traditions, la cohésion d'un quartier. Pour participer à un Teikei dans un quartier urbain, il faut le mériter, ce n'est pas automatique. En France, on veut adhérer à une AMAP, on veut faire ce geste d'engagement vers un producteur, on y adhère, on trouve une AMAP à côté de chez soi, on en constitue une. Au Japon, ça se mérite d'une certaine façon, il faut que le voisinage, les membres qui sont déjà, cooptent le nouvel intégrant.
Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour intégrer un Teikei?
Les qualités de tomber dans une démarche qui soit acceptée, similaire à celle du groupe. C'est vraiment une recherche de cohésion sociale. On est vraiment dans une société japonaise qui est toujours en recherche de cohésion de groupe avec la part de contraintes que ça comporte. Et donc, il faut avant tout adhérer à ces principes du Teikei, mais aussi à la dynamique qui peut se passer au niveau d'un quartier, qui peut s'exprimer, par exemple, au niveau de la récupération pour le compostage des déchets alimentaires.
Et ça, par exemple, ça fait partie des responsabilités également du consommateur, parce que vous dites qu'il y a une idée de partage des responsabilités là-dedans. Je vous cite, il faut essayer de gérer démocratiquement les activités au sein du groupe de producteurs et de consommateurs en instaurant une habitude de partage de responsabilités par tous.
Tout à fait. Tout à fait. Dans le contrat tel qu'il est défini au Japon est presque léonin. On a l'impression d'avoir un producteur qui est un petit peu déifié par sa contribution à avoir une société qui s'alimente bien face à des consommateurs qui lui sont presque soumis par tout le bien qu'il fait au groupe. Ça se traduit aussi par des contre-dons. Par exemple, lors du tremblement de terre qui avait eu lieu à Kyoto, des groupes de consommateurs qui étaient des groupes de paysans bénéficiaient des achats et de la solidarité des consommateurs urbains étaient venus aider à la reconstruction, apporter non seulement des vivres, mais aussi aider les familles à passer ce mauvais pas dans les maisons démolies.
Quelle est la taille d'un groupe, Gilles Maréchal? Ça rassemble combien de producteurs et de consommateurs? Et est-ce qu'il y a des limites, finalement?
Les limites sont avant tout celles qu'une relation interpersonnelle réelle impose. C'est-à-dire qu'un groupe trop important, de centaines de personnes, aurait du mal à favoriser cet esprit de cohésion que recherchent les uns et les autres. Bon, en France, une AMAP a couramment les démarre à une trentaine, quarantaine de personnes. L'esprit des AMAP, comme celui du Teikei, est plutôt décémé par des groupes qui ne soient pas trop important, de façon à garder un sens du collectif et puis une interconnaissance des personnes qui y participent.
Et le succès est important, si on regarde au niveau global, au niveau national, c'est un réseau qui implique combien de paysans, de consommateurs? On a beaucoup de Japonais qui font partie, qui s'inscrivent dans cette démarche, qui font partie d'un Teikei?
Oui, alors il est très difficile d'avoir les chiffres, hein, puisqu'en fait un take il n'a pas besoin de se déclarer où que ce soit. Les chiffres que j'ai pu entendre tournent autour de 300 000 consommateurs qui y participent. Mais comme tout système un peu normé, il y a aussi des groupes qui sont un petit peu à la frange du règlement, hein, qui avait été proposé par Ichiraku. Alors, doit-on les considérer comme relevant du Teikei ou pas? C'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un mouvement de fond et dont l'audience dépasse largement ceux qui le pratiquent. Hein. C'est aussi un mouvement qui représente une sorte de conscience du japonais face à son alimentation et notamment face à l'industrialisation de certains produits symboliques comme le thé vert, par exemple. Il appelle, ou la qualité des riz, il appelle à la vigilance par rapport à quelque chose qui, selon lui, fait part de l'identité japonaise.
Alors, à peu près à la même époque, en Suisse, on a des fermes communautaires qu'on a baptisées des food guilds, mettent en place des partenariats aussi avec les consommateurs locaux en leur fournissant des produits frais. Et c'est d'ailleurs en s'inspirant du modèle suisse qu'un Américain va l'importer aux États-Unis. On est au milieu des années 80, on a la première community supported agriculture qui va être montée. Les spécificités par rapport au modèle français et peut-être au modèle japonais dont on vient de parler?
Donc, sur la forme, comme je vous le disais, si c'était filmé par une caméra, ça pourrait paraître tout à fait similaire dans la forme concrète, dans la forme physique. Bon, par contre, c'est bien entendu adapté à l'esprit américain. Et là, il s'agit avant tout de permettre le maintien de petites fermes, de fermes locales que l'on peut connaître, qui restent à portée de main, et dans un esprit communautaire. Community Supported Agriculture appelle à ce sentiment de communauté qui existe à la campagne ou dans les quartiers américains. Et en cela, la référence est un peu différente de celle qu'on retrouve en France, hein, où on emploie plus facilement le terme territoire, par exemple, que communauté. Donc, les CSAs font appel à la fois à un engagement des citoyens, mais au sein d'une communauté qui, par le biais de ces échanges, d'échanges, d'alimentation et puis d'argent pour le payer, renforce les liens communautaires.
Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aux États-Unis, parce que je crois qu'il en existe aujourd'hui des milliers de ces CSA. Si on regarde un peu du point de vue général, si on quitte le seul environnement américain ou japonais, quel est l'avantage finalement écologique du circuit court? Est-ce que si tout le monde ne s'approvisionnait que par des AMAP, des Teikei, des CSA, on aurait vraiment un gain pour l'environnement? Parce que le bilan carbone pour acheminer une trentaine de kilos de pommes de terre et des 20 kilos de carottes pour une cinquantaine d'habitants, c'est quand même considérable, bien plus important que lorsque vous avez un gros camion qui va vous livrer 3 tonnes dans un grand magasin. Alors, je vous pose la question de manière un petit peu provocatrice, Gilles Maréchal, mais comment évaluer le gain écologique environnemental du circuit court? Est-ce qu'il est vraiment si intéressant que ça? Le bilan carbone est bien meilleur?
Alors, le bilan carbone n'est pas forcément bien meilleur. Il y a, en ce qui concerne le transport, une controverse qui est alimentée par l'étude qui a été publiée par un universitaire allemand, Schlier, autour du mouton qui arrive de Nouvelle-Zélande avec un bilan carbone plus favorable que celui qui arriverait sur une table allemande alors qu'il avait été élevé à proximité. Je pense que le gain principal porte sur le système de production. D'après des études faite par Jean-Marc Jancovici, c'est à peu près 17% bilan carbone total de notre alimentation qui est lié au transport. Alors que les coûts carbone, de gaz à émission d'effet de serre du système de production en lui-même représente plus de la moitié. Donc le lien est avant tout, je pense, pour améliorer l'impact global environnemental, à chercher dans l'évolution des systèmes de production. Or, on se rend compte que sans qu'il y ait d'effet de lien de causalité qui a été démontré, que l'agriculture biologique est beaucoup plus présente, par exemple, dans les circuits de proximité, les AMAP, les différents types, même les personnes qui vendent au marché. Donc, il y a un lien qui est observé, une relation observée sur le terrain, entre des pratiques agricoles à plus faible impact environnemental et puis le fait de vendre à proximité.
Et est-ce que finalement, Gilles Maréchal, les circuits courts ne sont pas d'abord et avant tout finalement l'arme retenue par les paysans pour lutter contre la grande distribution ? Est-ce qu'au fond, ce qui se joue ici, c'est pas d'abord le combat avec la grande distribution qui leur permet de retrouver une certaine autonomie ?
D'une certaine façon, c'est cela, bien que ce ne soit pas direct. Bon, l'histoire de l'agriculture française a fait que depuis les 30 glorieuses, depuis les années 50, le mouvement dit de modernisation de l'agriculture, en fait, le paysan individuel a été en grande partie dessaisi de toute responsabilité sur le système de commercialisation. Son rôle était désormais de produire de façon la plus efficace possible et souvent, quel que soit le coût environnemental. À travers ces systèmes, là, le paysan reprend pied sur un avis à donner avec les consommateurs sur le système de commercialisation. Et donc, s'affranchit d'un certain nombre de règles. Il est constant dans toutes les enquêtes qu'on fait que les paysans qui s'inscrivent dans ce type de commercialisation recherchent une autonomie. C'est-à-dire, ils cherchent un moyen de faire, d'avoir des pratiques qui correspondent à ce qu'ils ont réellement envie de faire sans se faire dicter un prix ou une façon technique, un procédé technique de produire qui leur serait dicté par l'extérieur.
Gilles Maréchal, on comprend très bien derrière tout ça. On a évidemment des enjeux économiques, mais aussi des enjeux sociaux, des questions de citoyenneté et de justice qui vont se jouer. Et finalement, tout ça est une question éminemment politique. Justement, Gilles Maréchal, on est tous favorables finalement au maintien de l'agriculture locale, à la paysannerie familiale. On est tous d'accord pour aider notre voisin agriculteur, notre voisin paysan, à l'aider à garder sa ferme, à améliorer ses conditions de vie. Et en même temps, il faut quand même s'interroger, Gilles Maréchal, sur cette posture qui consiste à privilégier son voisin. Le voisin, c'est celui que vous connaissez, c'est celui d'une certaine manière qui vous ressemble. Est-ce que cette manière de privilégier son voisin ne peut pas aussi porter une forme de rejet de l'altérité ? Finalement, l'agriculteur qui ne serait pas du coin, celui qui habiterait trop loin, ne serait pas digne de vous vendre son produit parce qu'il serait trop différent. Que vous inspire cette interrogation autour des dérives possibles de ce projet politique favorisant l'agriculture locale avec ce risque peut-être qu'il se transforme en discrimination ?
Alors ça pourrait l'être, hein, pour être tout à fait direct. Il est clair que certains milieux ultranationalistes peuvent utiliser cet argument de la proximité pour rejeter tout ce qui est trop loin, trop étranger et autres. Mais c'est loin d'être la majorité. Et on observe dans la pratique un lien très fort entre le fait de vouloir établir une justice dans les échanges auprès des paysans du coin, mais aussi avec une justice plus large sur tout le système alimentaire mondial. Très fréquemment, il y a un mélange entre des produits issus de l'agriculture locale et des produits issus du commerce équitable, par exemple. Malgré le réchauffement climatique, notre production locale de bananes ou de café reste encore assez réduite. Et donc, souvent, dans les paniers, les gens tiennent à associer des produits issus du commerce équitable dans le de pouvoir aussi donner à des producteurs du Sud qui souffrent de façon encore plus cruelle de bien des rejets dans leur propre société, ils veulent leur offrir aussi une possibilité équivalente à celle dont bénéficient les paysans locaux quand ils utilisent ces systèmes de proximité.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine autour des mondes paysans. Le paysan est mon voisin. On est avec Gilles Maréchal en duplex depuis Laval. On parle de ces circuits courts alimentaires, de ces circuits courts dans l'agriculteur. On a évoqué le cas du Japon, des États-Unis, de la France, bien sûr. On va prendre la direction de l'Amérique du Sud et de l'Équateur en particulier.
Cada 8 días, ya vengo a comprar aquí porque aquí no tiene este químico.
Je viens faire mes achats sur ce marché tous les 8 jours parce qu'ici, les produits ne sont pas traités avec des pesticides. Quand j'ai besoin de graines ou de maïs, je viens les acheter ici. Et ce sont vraiment d'excellents produits. Là, j'achète du maïs et quelques plantes. Ça, ce sont des aromates. Et ça, c'est pour faire des tortillas. Je viens ici depuis que j'ai découvert ce marché.
Voilà, sur un marché équatorien, on va retrouver une nouvelle invitée justement pour s'intéresser à ces circuits courts du côté de l'Équateur. Bonjour Claire Heinisch.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche et d'enseignement à l'ISARA, qui est l'Institut d'agriculture et d'agroalimentaire de Lyon. Vous rédigez en ce moment une thèse sur les circuits courts alimentaires de proximité et les paysanneries andines. Vous avez passé plusieurs mois en Amérique latine et principalement en Équateur. Donc vous avez eu l'occasion d'observer de près le système agricole équatorien. On devrait dire les systèmes d'ailleurs, parce que comme dans beaucoup de pays, le secteur agricole, il est un peu à plusieurs vitesses. On a évidemment d'un côté les très grosses exploitations qui fonctionnent sur le modèle productiviste, souvent d'ailleurs des monocultures destinées à l'exportation, et puis on a le modèle, disons, plus familial avec ses petites surfaces. Mais vous dites que ces agricultures paysannes, justement, ces petits agriculteurs andins, ils sont en train d'être revalorisés à travers des politiques publiques. En quoi est-ce que les politiques publiques ont changé dans leur approche de cette petite, disons, agriculture, et en quoi est-ce qu'elles ont cherché à favoriser les circuits courts qui nous intéressent ce matin ?
Alors, ces agricultures paysannes sont certes, il y a quelque chose d'assez inédit qui se passe en Équateur dans les politiques publiques, qui se mettent enfin, on peut dire, à s'intéresser à ces formes techniques et sociales d'agriculture par différentes formes de soutien. Ça a coïncidé avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec l'arrivée de Rafael Correa en 2006, l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la constitution équatorienne, et derrière qui s'est décliné, qui est en train de se décliner progressivement par différentes politiques d'appui aux agricultures paysannes, notamment via l'appui aux circuits alimentaires de proximité, circuits courts, et nouvelles formes de circuits alimentaires de proximité. Sachant que moi, ce que j'ai étudié sur le terrain, j'ai vraiment étudié des dispositifs particuliers de circuits courts. Ce qu'on voit, c'est que à la fois il y a un engagement des politiques publiques que certains jugent encore très insuffisant, pour autant, mais également un engagement de divers acteurs en faveur de ces nouvelles formes d'échange de produits et de l'agriculture paysanne.
Alors voilà,
il y a vraiment
juste
double mouvement, politique publique et tout un tas d'acteurs qui se mettent à s'intéresser à ces paysans, disons.
Alors voyons justement, Claire Heinisch, quelles sont les initiatives qu'on retrouve, les initiatives gouvernementales. On a par exemple les marchés citoyens qui visent à rapprocher là aussi les producteurs des consommateurs. Vous avez notamment étudié le cas dans la province de Chimborazo, qui est là où se situe le volcan du même nom, qui est le point culminant des Andes équatoriennes. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne et puis nous dire aussi peut-être le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui.
Alors, rapidement, comment ils sont nés? Alors, dans le cas de la province de Chimborazo, il y a eu, en fait, une rencontre, si on peut dire, entre une initiative gouvernementale, donc vraiment une injonction de l'État de créer ce type de marché, et puis des mouvements sociaux, locaux, associant des paysans et surtout des paysans des ONG mobilisés en faveur de systèmes justes de vente de produits paysans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En 2007-2008, il y a eu, comme partout dans le monde, la crise alimentaire, crise des prix alimentaires, qui a conduit le gouvernement équatorien à essayer de réfléchir à des dispositifs de vente permettant de fournir aux consommateurs des produits à des prix des prix raisonnables et surtout stables, puisqu'il y avait une très forte instabilité des prix, c'est d'ailleurs encore souvent le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, dans la province de Chimborazo, ce qui se passait à peu près à cette même époque, c'est qu'il y avait un groupe, un collectif qui s'était constitué, qui était composé d'organisations plus ou moins formelles paysannes et d'ONG, et puis certains militants individuels, des chercheurs qui étaient un peu impliqués sur la question, etc., universitaires, mouvements étudiants aussi, qui en fait militaient pour que les paysans aient un espace dans la ville, donc la ville de Riobamba, capitale de la province, pour pouvoir vendre directement leurs produits aux consommateurs. À l'époque, la municipalité refusait catégoriquement de leur fournir un espace pour divers motifs, et notamment au motif que avoir des paysans en plus indigènes qui vendaient leurs produits directement dans l'espace urbain, c'était préjudiciable à l'image de la ville. Donc, ce que faisait ce collectif-là, ils occupaient clandestinement différents parcs et places de la ville pour vendre leurs produits. Puis évidemment, ils étaient virés à chaque fois, mais ils continuaient leur mobilisation.
Finalement, donc, ils ont eu gain de cause. On leur a réservé un endroit spécifique,
alors,
une place.
C'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, suite à cette injonction gouvernementale de créer ces marchés citoyens, c'est les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture qui a pris ça en charge, avec une personne qui, à l'époque, était assez motivée par la question paysanne et qui, du coup, est allée voir les représentants de ce mouvement en leur disant, bah, écoutez, venez donc sur notre espace. Alors, c'était pas un espace municipal, puisque c'est un espace qui appartenait au ministère de l'Agriculture, mais en leur disant, voilà, vous pouvez participer à ce projet de marché citoyen en venant vendre directement vos produits. Et donc, c'est comme ça qu'a été créée la première feria sudananas équatorienne dans la province de Chimborazo. Et puis ensuite, elle existe toujours aujourd'hui, et tous les samedis matins, il y a des paysans, mais pas uniquement des paysans, hein, également des intermédiaires pour les produits qu'on trouve pas dans la province, et quelques petits entrepreneurs urbains qui vendent aussi des produits transformés, donc qui sont là tous les samedis pour vendre leurs produits aux consommateurs urbain, avec l'appui très fort des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture.
Et on entend très bien dans vos propos, Claire Henich, finalement, que ce qui se joue, c'est pas seulement des questions, j'allais dire, purement agraires, agricoles, il y a également par-dessus des considérations plus politique, plus culturelle. C'est aussi un combat pour la reconnaissance des droits des indigènes qui se joue là. Et d'ailleurs, on remarque en Amérique latine que ces mouvements paysans se confondent très souvent avec les mouvements indigènes. Est-ce que finalement, au bilan, ces marchés citoyens ont justement modifié la perception que l'on se fait des petits producteurs paysans indigènes ?
On peut dire que oui. Alors, il n'y a pas eu que ces marchés citoyens. Si vous voulez, en Équateur, il y a aussi d'autres initiatives de marchés agroécologiques dans d'autres provinces qui ne sont pas des marchés citoyens, mais qui sont des formes un peu similaires, pas forcément des initiatives gouvernementales. Hein. Les ONG ont aussi joué un rôle important dans la création de marchés paysans, agroécologiques, etc. Alors, sur la revalorisation du paysan, il se passe effectivement plein de choses. Alors, c'est très progressif. Mais on constate une revalorisation notamment de certains produits, produits considérés comme andins indigènes et parfois dépréciés par les populations urbaines.
Vous pensez auquel en particulier ?
Alors, je pense à un produit dont c'est vrai que les représentants des dispositifs que j'ai étudiés à Chimborazo ont fait un peu leur produit emblématique et produit phare, qui est la machica de cebada. Donc ça, c'est en espagnol. C'est une farine en fait à partir d'orge grillée, qui était un produit qu'on retrouvait traditionnellement dans l'alimentation, qu'on retrouve dans l'alimentation plus paysanne et ou indigène, hein, parce que bon, même si la province de Chimborazo est très indigène, tous les paysans ne sont pas indigènes forcément. Et donc, ces produits-là, à travers ces systèmes de vente directe du producteur au consommateur, ont été revalorisés. Et donc, certains représentants de dispositifs de circuits alimentaires de proximité, type les marchés citoyens, en font un peu leur produit emblématique, comme voilà, patrimoine local et national. C'est pas le seul, hein, mais c'est un peu un emblème.
Alors, au-delà de cette question de l'évolution, finalement, de la perception de cette figure indigène, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la vie des paysans ? Parce qu'il y a, vous l'avez dit, ces marchés citoyens, il y a eu d'autres initiatives. Je pense par exemple aux paniers communautaires, qui sont en gros un dispositif qui ressemble pas mal à ce qu'on a, nous, en France, avec les AMAP. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que là, il s'agit d'initiatives venues des populations. Il n'y a pas eu de politique gouvernementale. Mais à l'arrivée, est-ce que toutes ces initiatives ont permis d'améliorer les conditions de vie de ces paysans ? Et puis ensuite, je ferai réagir Gilles Maréchal. Mais d'abord, votre regard là-dessus, Claire Henich.
Alors, ça peut s'observer à divers niveaux, ça pourrait durer très longtemps de faire l'inventaire, mais à des niveaux assez immédiats, au niveau du revenu, il y a des études qui montrent qu'il y a une amélioration du revenu, et parfois, un revenu tout court. C'est-à-dire que prenons le cas des marchés citoyens, on va retrouver sur ces marchés les personnes qui sont en charge de la vente, ce sont les femmes. Et donc, ces femmes-là qui étaient souvent, alors pas systématiquement, mais souvent cantonnées à l'exploitation, donc pour la partie productive, et qui n'avait pas accès ou en tout cas beaucoup moins que les hommes qui souvent migraient en ville pour avoir une activité complémentaire, n'avaient pas accès à l'espace urbain et n'étaient pas confrontés, en tout cas beaucoup moins, aux sociétés urbaines. Donc ces femmes-là, non seulement viennent vendre leurs produits et donc amènent aussi un revenu au foyer, mais en plus se confrontent à l'espace public urbain, gagnent en auto-estime, en capacité d'échanger avec les consommateurs, voire à négocier. Et puis plus généralement, hommes ou femmes, ce qui se passe aussi, c'est que ces dispositifs-là, qui souvent ont été créés pour des motifs économiques, hein, c'était vraiment à la base l'argument du gouvernement pour les marchés citoyens, hein, c'était des prix accessibles aux consommateurs, les paniers communautaires que vous avez cités, à la base c'était vraiment un besoin économique de population urbaine, de quartiers populaires, finalement se mettent à avoir des préoccupations sur les questions alimentaires, sur les questions de modèle agricole et de modèle alimentaire qu'on souhaite, et finalement à porter des projets autour des questions alimentaires, autour des questions d'économie solidaire, autour des questions écologiques, de souveraineté alimentaire en général. Et donc, au-delà de simplement être des dispositifs où on échange des produits, ces dispositifs souvent se constituent en association ou en collectif, quel que soit leur statut juridique, hein, peu importe, mais du coup se mettent à participer à des échelles régionales, provinciales et même nationales, au débat public sur la souveraineté alimentaire, l'économie solidaire, l'alimentation, etc. Mmh. Et donc ces paysans-là, au-delà d'avoir la possibilité de vendre dans l'espace urbain directement aux consommateurs, peuvent, à travers ce dispositif-là, participer au débat public et politique sur le modèle agricole et alimentaire souhaité à des échelles plus globales que simplement à l'échelle locale.
Et c'est vrai que ce débat, justement, ce débat autour du commerce équitable, il est très fort en Amérique du Sud. Gilles Maréchal, je voudrais vous entendre peut-être sur le cas de l'Équateur et puis peut-être faire un petit jeu de miroir avec le cas du Brésil, parce qu'au Brésil aussi, on a eu des initiatives gouvernementales très fortes. On a par exemple des politiques de soutien à l'agriculture familiale avec deux grandes initiatives, l'un qui s'appelle le programme d'acquisition d'aliments qui a été lancé il y a une dizaine d'années, et puis le programme national d'alimentation scolaire. Là aussi, on pourrait s'interroger sur ces initiatives gouvernementales et regarder les effets que ça a eu concrètement sur le terrain, Gilles Maréchal.
Alors, ces effets sont notables. La différence avec l'Équateur, c'est qu'il y a une politique publique fédérale, c'est-à-dire de l'État central brésilien, assez forte, hein, qui injecte à peu près, disons, 1,5 milliard d'euros par an, de l'argent, des budgets qui sont repris par les communes, ou disons ou ça peut être aussi des États, mais enfin essentiellement des communes, de façon à avoir l'argent pour acheter auprès des producteurs locaux. Hein, c'est donc une politique publique qui est tout à fait assumée, et aussi par le fait qu'il existe au Brésil deux ministères de l'agriculture. Il existe le ministère de l'agriculture pour l'agriculture à vocation exportatrice, hein, qui exporte le soja, le jus d'orange, le café, et puis le ministère du développement agraire, dont la fonction est de maintenir autant que possible la petite agriculture de proximité. Ce qu'il y a de très intéressant dans le cas du Brésil, c'est d'une part que c'est un programme sur financement national, mais largement décentralisé, et d'autre part que l'optique n'est pas purement agricole. C'est-à-dire que cette politique est négociée aussi avec le ministère du Développement social et de lutte contre la faim. Le lien étant établi dès le départ entre le fait que les paysans sont parmi les plus pauvres et eux aussi ont faim, peut-être même plus que les autres. Et puis le fait que se procurer des aliments de proximité contribue au bien-être général, y compris urbain. Donc c'est une politique assez ambitieuse dans la mesure où on sait que l'interministériel n'est jamais facile à actionner, mais qui dure maintenant depuis une douzaine d'années. Quand les communes s'en sont saisies de façon active, ça provoque des effets notables en termes de stabilisation de la paysannerie locale, mais aussi d'accès des populations pauvres à des aliments sains, pas seulement à l'école, puisque souvent les communes qui font ça achètent certes pour l'école, les institutions sociales et autres, mais se débrouillent aussi pour faire un petit marché du producteur de façon à rendre l'accès aussi universel que possible.
C'est intéressant cette question de la double gestion des affaires agricoles au Brésil. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui sont dans ce cas, mais il y a effectivement donc deux ministères, le ministère de l'Agriculture et puis le ministère du Développement Social et de la Lutte contre la Faim. Le premier, en gros, est lié à l'agro-business, à ces immenses exploitations qui sont à l'origine des capacités exportatrices du pays. Et puis on a ensuite la gestion liée à l'agriculture familiale avec tous ces programmes, et notamment ce que vous nous expliquiez à propos des communes, effectivement, qui ont la possibilité de privilégier les paysans locaux pour fournir, par exemple, les cantines des écoles. Donc l'État va subventionner avec des crédits les localités pour mener ces politiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois une forme d'incompatibilité entre les intérêts de ces deux ministères ?
Ah, tout à fait. Il est clair que il y a une certaine hiérarchie, disons, le ministère de l'Agriculture qui apparaît à l'extérieur dans les négociations internationales, lors des conférences internationales, c'est le ministère de l'Agriculture à vocation exportatrice. Ensuite, pour être très clair, une terre donnée peut être consacré soit à l'agribusiness, soit à l'approvisionnement local et à l'agriculture vivrière. Et il y a donc conflit avec, c'est un mouvement très fort au Brésil, notamment le mouvement des sans-terres, le mouvement des sans-terres qui revendique le droit d'accès à la terre pour des gens qui pourront satisfaire les besoins locaux. Donc, en pratique, il y a des conflits d'intérêts entre les voies que défendent les deux ministères, mais aussi sur le terrain, entre les publics cibles des différents ministères, il y a des conflits tout à fait violents, qui se soldent malheureusement par des morts et des violences qui sont absolument terribles.
Merci beaucoup en tout cas à Claire Hainich d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur cette agriculture en Équateur et sur ces circuits courts qu'on peut y trouver. Un grand merci à vous. On va changer de continent, on va aller du côté de l'Afrique. Vous parliez d'ailleurs, Claire Hainich, tout à l'heure de ces émeutes de la faim. Vous rappeliez que l'Amérique du Sud aussi avait été touchée et bien sûr l'Afrique avait été touchée. Bien sûr, l'augmentation de ces denrées alimentaires avait touché les populations africaines les plus précaires. Le drame évidemment de ces pays d'Afrique, c'est que l'afflux des produits importés, le riz, le blé, le sucre, les rend particulièrement vulnérables, d'où l'importance, bien sûr, de remettre l'accent sur la production locale, sur l'agriculture familiale.
L'aide d'urgence, ce n'est pas une bonne méthode. Il faudrait arrêter ça. Il faudrait plutôt aider les paysans à s'autosuffire, à leur donner les moyens adéquats pour pouvoir travailler cette terre, se nourrir et le surplus, donner ça aux autres qui n'ont pas eu accès à cette terre-là. Arrêter cette aide-là qui nuit aux paysans.
Dès qu'il y avait une production, elle était aussitôt consommée. Et quand elle était épuisée, c'était la misère. En aidant les femmes agricultrices, on nourrit son mari, ses enfants, ses petits-enfants, sa belle-fille, les hôtes de son mari et les parents du mari.
Nous voilà donc à présent du côté du Mali. On va accueillir un nouvel invité, Jocelyn Parot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Urgency, qui est un réseau international des partenariats locaux et solidaires producteurs-consommateurs. Alors au Mali aussi, on a un système de circuits alimentaires courts, ça s'appelle les kiosques alimentaires, soutenu d'ailleurs par le comité international d'Urgency auquel vous appartenez. À l'origine de ce projet, on a un homme aussi, qui s'appelle Oumar Diabaté, le pionnier de l'agroécologie au Mali. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être à la fois le parcours de cet homme, sa démarche, et puis surtout nous expliquer comment fonctionne ce dispositif? Et puis la question qu'il y aura derrière, c'est l'objectif de tout ça. Est-ce que c'est améliorer l'agriculture familiale au point d'atteindre justement la souveraineté alimentaire? Je faisais référence tout à l'heure aux émeutes de la faim. Est-ce qu'il faut en gros pour l'État que tous les Maliens puissent manger avec le fruit du labeur de ces paysans? C'est ça l'objectif des politiques publiques maliennes? Jocelyn Parot, d'abord peut-être sur ces kiosques alimentaires.
Oui, d'abord j'aimerais remettre tout ça dans le contexte mondial, donc du mouvement international des partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs. Parce que comme vous l'avez dit en début d'émission, on voit se propager un peu partout, donc les Taikei au Japon, les CSA en Amérique du Nord, également les AMAP en France, etc. Et tous ces mouvements communiquent les uns avec les autres. Je crois que c'est très important de comprendre que les circuits courts qu'on voit au Mali ou dans d'autres pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest sont aussi en lien avec ce mouvement global et qui répondent pas seulement à des questions endogènes. Et par exemple, le parcours d'Oumar Diabaté, donc effectivement qui a lancé des kiosques alimentaires locaux, représente de manière assez, assez symptomatique ce lien très fort, puisque il s'est inspiré des AMAP, qu'il a vu fonctionner en France. Il a voulu, en quelque sorte, adapter le concept au contexte malien, avec un succès relatif, puisqu'il est, il est arrivé à avoir une cinquantaine de familles, surtout des expatriés et des membres de la classe moyenne malienne montante, donc à proximité de Bamako. Et mais il a voulu aller plus loin, puisqu'il a bien compris qu'il y avait un obstacle pour l'accès de populations plus importantes à ce mode de distribution et de consommation. Et donc, il a pensé aux kiosques alimentaires locaux, qui sont tout bêtement des espaces de vente collectifs pour les petits producteurs, mais avec le double sens du kiosque, donc à la fois un espace de vente, mais aussi un espace de sensibilisation, d'information de ces consommateurs à la problématique de l'agroécologie, de l'agriculture paysanne, la question sanitaire aussi, qui sont toutes des questions centrales dans ce pays comme ailleurs. Donc il y a une dimension pédagogique et de sensibilisation qu'il faut vraiment pallier, hein, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les pays du Nord, hein, comme en France, où les AMAP, comme vous l'avez dit, restent marginales, mais ont un écho important et participent à la sensibilisation des consommateurs.
D'accord, donc c'est à la fois, d'abord et avant tout, évidemment, un espace de vente, mais c'est aussi un espace d'information pour les consommateurs, mais c'est en plus un espace pour la formation, disons, des producteurs. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de circuit court ? La question qui m'intéresse dans le cas des kiosques alimentaires, c'est la question des intermédiaires. Est-ce que le consommateur achète directement ses denrées alimentaires auprès des paysans, ou est-ce qu'il y a un ou plusieurs intermédiaires? Dans le cas des AMAP, vous disiez qu'il s'est inspiré de ce modèle-là. On n'est pas toujours en lien direct avec le paysan. Il y a très souvent des intermédiaires, en réalité. Eh bien, on le sait, bien sûr, la multiplication de ces intermédiaires, ils augmentent les tarifs. C'est, vous savez bien, c'est le premier reproche qu'on fait à cette agriculture paysanne. On dit qu'elle coûte plus cher aux consommateurs. Jocelyn Parot.
Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre totalement circuit court et AMAP. Les AMAP sont vraiment un partenariat de vente directe contractualisé, hein, avec un engagement fort sur 6 mois, comme on l'a dit, signé avec un contrat. Et donc, c'est vraiment de la vente directe. Les AMAP font partie d'un mouvement plus large, qui est le mouvement des circuits courts, mais se distinguent par cette dimension de partenariat direct. Pour les kiosques alimentaires locaux, on est aussi dans de la vente directe. Hein, les producteurs eux-mêmes apportent leurs produits. Il y a une vingtaine de producteurs du coup qui sont liés à ces kiosques alimentaires autour de Bamako. Et donc je pense que voilà, il faut bien expliquer cette différence qui est assez fondamentale, hein, de la charte des AMAP, tout comme les 10 principes des TK disent clairement qu'on est dans la vente directe et pas sans intermédiaire. Et donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille.
Encore une toute petite question, si vous voulez bien, Jocelyn Parot. C'est quoi les produits qui sont proposés dans ces kiosques? Est-ce que c'est des produits qui correspondent finalement aux habitudes de consommation des Maliens qui, c'est vrai, ont beaucoup évolué ces dernières années? Est-ce qu'on s'adapte aux consommateurs? Ou est-ce qu'il y a aussi finalement un travail de sensibilisation pour remettre au cœur de ces échanges des produits traditionnels qu'on a un peu oubliés?
Oui, tout à fait. Il y a même, enfin, c'est pas seulement une question de produits traditionnels, mais aussi la découverte de qualité de produits, enfin de légumes parfois un petit peu oubliés. Effectivement, il y a tout un travail là-dessus sur une dimension de réinvention de la tradition ou voilà, et donc la valorisation aussi de la production locale. Effectivement, c'est très important. On est là vraiment sur des produits maraîchers, hein, en grande majorité, tout comme dans les mouvements dans le reste du monde. Et donc en essayant de mettre en avant les variétés locales, effectivement, il y a évidemment au Mali tout un enjeu très fort, hein, autour des mouvements paysans, de la souveraineté alimentaire. C'est un peu le pays berceau de cette notion d'ailleurs, avec le forum de Niélémy qui avait eu lieu en 2007. La valorisation des semences paysannes, des variétés locales est vraiment au cœur de ce projet.
Merci beaucoup, Jocelyn Parot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, secrétaire général d'Urgency, réseau international des partenariats locaux et solidaires, producteurs, consommateurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
mag
ana vai bonne
ere yong ayere nam mag
ana vai
bonne e po so pina yong ana de pote hongone
ana vai
bonne e po na ta yel ana de pote hongone.
Et puis un grand merci à vous, Gilles Maréchal, de nous avoir accompagnés ce matin pour mieux comprendre finalement ces circuits courts dans l'agriculture, dans l'alimentaire. Je rappelle que vous êtes ingénieur, économiste, consultant en agriculture. Et puis je rappelle aussi cet ouvrage que vous avez coordonné, Les circuits courts alimentaires. C'est vraiment un ouvrage très intéressant pour découvrir notamment, par exemple, les teikei japonais que je ne connaissais absolument pas. Et c'est absolument passionnant. C'était paru en 2008 aux éditions Éduc Agri. Un grand merci à vous et un grand merci également aux techniciens qui sont à vos côtés, qui ont permis notre discussion ce matin, puisque vous étiez en duplex depuis Laval.